Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat d'Angélique Chauviret en 2006 sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes, tuée par un certain Catron Fortune, un chef de gang condamné pour d'autres meurtres et qui serait donc un tueur en série. Histoire que je débriefe avec vous, maître Sandra Chirac-Collary, vous êtes avocate au barreau de Paris aujourd'hui, mais vous exerciez à l'époque au barreau d'Angers et vous avez défendu dans ce dossier les intérêts de la famille d'Angélique Chauviret. Parlons tout de suite de ce procès bizarre. Vous êtes où, vous, pour ce procès ? À Angers, je suppose ?
Eh bien non, nous sommes sur place, en Guadeloupe, devant cette cour d'assises qui est composée effectivement de manière inhabituelle, à savoir que normalement une cour d'assises classique est composée de jurys populaires tirés au sort qui vont composer cette cour d'assises. Mais comme on est sur une autre modalité, à savoir une absence de l'accusé, eh bien je me retrouve devant trois juges professionnels qui vont statuer sur cette affaire.
Ça tient debout, ça, sur le plan légal ?
Oui, alors on a en fait un jugement qui est rendu ce qu'on appelle un défaut criminel, hein, c'est l'ancien jugement par contumace. Concrètement, ça veut dire que effectivement l'accusé ne pouvant être présent, ce que l'on peut imaginer par notamment ce risque plus qu'élevé d'évasion avec un transfert à haut risque, hein, et je pense que les Pays-Bas ne souhaitent pas prendre ce risque, eh bien nous avons effectivement un accusé qui est absent, qui va être jugé au regard d'un dossier soumis à ces trois juges professionnels.
Donc il y a vous, il y a son avocat peut-être, et puis il y a les trois magistrats et l'avocat général.
Il n'y a pas d'avocat pour lui, il y a les trois magistrats qui vont juger, il y a l'avocat général et moi qui notamment rencontrerai mes clients par le biais de la visioconférence comme vous l'avez indiqué.
Donc eux ils sont à Angers, quelle frustration!
Tout à fait, ça a été compliqué. Après, je pense qu'il aurait été aussi émotionnellement extrêmement dur d'assister à ce procès. Je rappelle qu'on est en octobre 2020 et qu'on est à 6 mois près, 14 ans après la perte de cet être cher. Tous ces événements que vous avez rappelés, enfin, on est sur quelque chose de surréaliste et je m'interroge encore aujourd'hui sur le fait de savoir comment cette sœur, ses frères, cette maman, puisque le papa d'Angélique nous a quittés depuis, mais comment ces personnes ont pu tenir pour arriver à cette phase de jugement. Donc finalement, le fait d'être aussi à distance était peut-être un moyen de se protéger.
Vous pensez pas qu'il y a un motif de cassation ?
Oh non, il n'y a pas de motif de cassation. Les droits de l'accusé sont complètement, évidemment, préservés puisque la décision va lui être notifiée. On est encore en attente depuis maintenant 2 années, presque.
Elle n'a pas été notifiée encore ?
Elle n'a pas encore été notifiée puisque tout se passe également en lien avec les Pays-Bas. On est sur une procédure longue, très technique, qui fait que cette décision n'est pas encore officiellement portée à la connaissance de l'intéressé, qui aura le droit soit d'acquiescer, de dire qu'il accepte cette décision, ou bien au contraire d'être rejugé avec un nouvel examen de cette affaire devant la cour d'assises. Donc ses droits sont strictement préservés, bien évidemment.
Donc ça n'est peut-être pas fini.
Tout à fait.
C'est dingue. Quel est, selon vous, le mobile de Catron Fortune dans cette affaire ?
Écoutez, je reste intimement convaincue que malheureusement Angélique s'est trouvée alors au mauvais endroit, au mauvais moment, en tous les cas qu'elle avait eu connaissance d'informations sur la disparition de ces deux jeunes hommes qui étaient en fait des personnes qui constituaient le gang de ce fameux Cucci et qu'elle avait des informations très probablement sur la disparition de ces deux jeunes hommes et qu'il fallait par définition la faire taire, ne pas prendre le risque qu'elle parle. Et au regard de la personnalité de ce fameux Cucci et de la dangerosité extrême dont il a pu faire preuve, c'est le moins qu'on puisse dire, toute personne qui le dérange dans l'évolution de ses activités doit disparaître. Et c'était la femme à abattre, Angélique.
Pendant toute la procédure, il a nié. Et donc au procès, comme on ne peut pas l'interroger, j'arrive pas à me faire cette idée qu'on n'ait pas pu l'extrader vers la Guadeloupe éventuellement, mais on aurait pu dépayser aussi le procès à Angers, quoi.
Alors,
pour pouvoir lui poser des questions.
Ah, mais je peux vous dire que c'est effectivement une frustration. En même temps, est-ce que la famille d'Angélique attend encore quoi que ce soit aujourd'hui de cet individu?
Probablement pas.
Eu égard à l'attitude qu'il a, et j'allais dire aux agissements qui ont été les siens, je pense que c'est une personne qui est dénuée par définition de toute humanité et qui n'entend pas apporter la moindre explication. Il a été entendu à deux reprises dans ce dossier, vous l'avez précisé, en 2008, il ne lâche rien, et puis lors de sa mise en examen, c'est la même chose. Je pense qu'il n'a rien à perdre et que j'attends très très peu de ses explications, mais encore une fois, ce sera son droit s'il estime qu'il veut être jugé, il sera rejugé, mais nous serons présents.
Du coup, on ne sait pas quel genre de type c'est. On imagine une brute épaisse.
Alors physiquement, il est décrit comme ayant effectivement une stature très très imposante, un regard inquiétant. Alors il y a une photo qui est diffusée sur internet de cet individu. Alors c'est pas forcément effectivement une photo prise en vacances, donc on se doute qu'il va pas être très souriant, mais en tous les cas, il est décrit comme quelqu'un de très impressionnant, quelqu'un qui prend de la place, qui sait s'exprimer et qui sait tout simplement donner les ordres, les distribuer. Et j'allais dire que ça a été son rôle principal dans ce gang. Et ces violences extrêmes qui ont été commises avec finalement ces hommes de main, très précisément, on a pu constater que les deux jeunes hommes qui avaient disparu, précisément, faisaient partie de ce gang, pour dire qu'il est prêt à tout s'il estime qu'il y a des traîtres autour de lui ou qu'une personne gêne, on voit quelle est sa façon de pratiquer.
Dans quelles circonstances, à votre connaissance, est-ce qu'Angélique l'a rencontré? Était-elle amie avec lui?
Non, au regard des investigations, de ce qu'on a pu retenir de l'enquête sur l'environnement d'Angélique, très probablement c'était une connaissance très récente de quelques mois, mais en tous les cas qui n'appartenait pas à son cercle amical proche, ça c'est une certitude. C'est quelqu'un qu'elle a dû croiser au décours de soirée, semble-t-il, et je pense que voilà, la connaissance se fait de cette manière-là, mais en aucun cas un cadre amical et une proximité entre les deux.
Il y a de la naïveté de sa part dans la rencontre avec cet homme qui sans doute est basé sur ce projet qu'est là de parler à tout le monde sur cette île et notamment aux autochtones.
Angélique était connue pour sa bonté extrême, c'est-à-dire une personne qui était dans l'empathie, qui était aussi dans la curiosité de rencontrer, d'aller à la recherche de l'autre, de découvrir vraiment, encore une fois, différents modes de vie, différentes personnalités. Et je pense effectivement que cette naïveté qu'on pourrait lui attribuer aujourd'hui, elle est liée tout simplement au fait que pour elle, une personne ne peut pas agir de cette manière-là. Elle était la bonté incarnée. Le terme de gentillesse est revenu plusieurs fois dans cette procédure. C'est vraiment ce qui caractérisait cette jeune femme.
La branche plantée dans le sexe d'Angélique, toute l'enquête, on se demande pourquoi.
Alors après, ce sera du domaine de l'interprétation. De la supposition, il faut savoir qu'effectivement il est jugé pour meurtre, que la circonstance de viol ou d'acte de torture et de barbarie qui était relevé au début de l'enquête n'a pas été retenu puisqu'on ne peut pas dater chronologiquement l'introduction de ce bâton avant ou après la mort, et que dès lors qu'il y a un questionnement, effectivement le renvoi était ordonné du chef de meurtre. Selon moi, on est vraiment sur une scène qui est un acte punitif, et encore une fois, il s'est acharné sur cette jeune femme. Vous l'avez précisé, on est sur des blessures qui ont déformé le visage parce que la boîte crânienne est littéralement pulvérisée, et l'introduction de cette branche, elle l'est faite de manière, encore une fois, surréaliste, c'est-à-dire qu'on est sur une profondeur de 37 cm, il vient perforer la cage thoracique, pour vous dire la haine et la fureur qui est la sienne au moment où il procède à ses agissements sur le corps d'Angélique Chauviré.
Du coup, on trouve là un des éléments assez caractéristiques des tueurs en série, c'est-à-dire quelque chose de très pervers, j'ai envie de dire de pervers pathologique. Ou alors c'est juste un abruti qui commet un geste comme ça, quoi.
Il est extrêmement compliqué de comprendre son fonctionnement, sa structure personnalité.
Oui,
en tous les cas, il y a un dénominateur commun en tous les cas, c'est que on note une extrême violence, c'est vraiment comme ça qu'il est décrit. Et j'allais dire que les dégâts occasionnés sur le corps d'Angélique sont le signe de ce qu'il a pu être capable de faire. C'est difficilement qualifiable en termes de gravité dans l'échelle de l'horreur.
Alors on lui prête d'autres meurtres. Donc les Néerlandais parlent de 10 de plus, les Français de 17 au total. Au moment du procès, il y a une liste, on en parle de ça ou pas?
Alors nécessairement, la disparition des deux hommes en novembre 2005 et en mars 2006, c'est très présent puisque précisément ce sont des informations dont plusieurs témoins vont dire qu'Angélique avait connaissance des circonstances de cette disparition. Donc oui, on en parle. Maintenant, ce sont des affaires qui ne se sont pas jugées de manière simultanée. La seule chose qui est certaine, c'est effectivement que au moment de l'enquête, on est en septembre 2007, il est condamné pour meurtre sur ce jeune homme, Erwin Margarita, pour 21 ans. C'est d'ailleurs ce qui va permettre un petit peu de commencer à délier les langues, parce qu'encore une fois, c'est une omerta qui règne sur cette île, tellement cet homme fait peur. Après, il a été question également donc, du meurtre donc, de ces deux jeunes hommes, à savoir peut-être une condamnation qui sera intervenue en 2022 devant la cour d'assises de Guadeloupe, mais je n'ai pas, moi, d'éléments particuliers, mais j'ai vu de la presse passer à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'on est effectivement sur des affaires qui se mettent un petit peu en parallèle, mais qui ne sont pas jugées en même temps, pour avoir une appréciation globale de la situation.
Est-ce que pour terminer, on peut dire un peu de mal de la coopération judiciaire européenne ?
Alors, dire du mal, c'est pas de mon fait, c'est pas de mon rôle, j'allais dire, de le faire. Ce que je peux faire, c'est peut-être relayer effectivement le désarroi de cette famille qui est passée par tous les stades, c'est-à-dire de l'espoir, de la désillusion, de l'effroi. Vous avez rappelé, hein, c'est un calvaire judiciaire qu'ils ont vécu. Et il est vrai que aujourd'hui, c'est un petit peu la sidération, encore aujourd'hui, des années après, lorsque effectivement, on constate qu'il faut attendre 4 ans pour obtenir des scellés dans cette affaire, et on sait que la génétique aurait pu nous aider, et quand on constate que cette pierre qui est tout simplement l'arme du crime, c'est-à-dire qu'effectivement on aurait eu un revolver placé à côté, de se dire on ne saisit pas l'arme du crime, je n'ai pas de réponse à ce sujet, c'est juste sidérant, et j'allais dire que c'est aussi quelque chose qu'a dû intégrer cette famille qui était à distance de tout cela, à des milliers de kilomètres. Ça aussi, ça a contribué encore une fois à la douleur qui a été la leur de vivre tout ça de manière éloignée, en même temps très impliquée, parce qu'il faut, il fallait, il faut que justice soit faite pour eux.
Tout est sidérant dans cette histoire. Merci beaucoup, maître Sandra Chirac-Colaric, avocate de la partie civile dans cet incroyable dossier.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.